en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en habit vert, pour cette nouvelle émission, vous propose de brosser le portrait de Pierre-Gilles de Gennes, physicien, académicien des sciences, prix Nobel en 91 et qui s'est éteint en 2007. Biologiste et physicien, Pierre-Gilles de Gennes, PGG pour les intimes, s'est intéressé aux aimants, aux métaux supraconducteurs et aux cristaux liquides. Bien qu'au cœur de la recherche fondamentale, il accordait beaucoup d'importance aux applications pratiques de ses découvertes. Et aujourd'hui, si vous avez un écran plat dans votre salon, une montre à affichage digital à votre poignet, c'est notamment grâce à Pierre-Gilles de Gennes qui a aussi contribué à la mise au point de superglues qui permettent aujourd'hui d'assembler des matériaux longtemps considérés incollables, ceci pour vous donner quelques exemples. Outre ses recherches et ses découvertes, le scientifique, au charisme hors norme, accordait beaucoup d'importance à la transmission des connaissances. Il tenait à faire signer les articles scientifiques au nom de ses groupes de recherche qu'il dirigeait. Il remerciait ses étudiants de l'avoir mis sur des pistes à travers leurs questions. Et puis, il s'est également beaucoup intéressé à l'enseignement des sciences au lycée, dont il allait visiter les salles de classe. Pour évoquer les travaux du physicien qui lui ont valu le prix Nobel de physique en 91, pour évoquer ses engagements, ses convictions, deux de ses anciens amis sont avec nous, Jacques Pro et Étienne Guyon. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Jacques Pro, vous êtes directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielle, l'ESPCI. Ceci depuis 2003. Vous avez donc succédé à Pierre-Gilles de Gennes à la direction de cette école. J'ajoute que vous êtes chercheur à l'Institut Curie et vous avez travaillé avec Pierre-Gilles de Gennes sur les cristaux liquides et vous êtes membre de l'Académie des sciences comme l'était Pierre-Gilles de Gennes. Étienne Guyon, vous êtes physicien, chercheur à l'ESPCI, ancien directeur de l'ENS, directeur honoraire du Palais de la Découverte et ancien élève de Pierre-Gilles de Gennes. Commençons peut-être, si vous le voulez bien, par votre première rencontre à tous les deux avec Pierre-Gilles de Gennes. Alors commençons peut-être avec vous, Étienne Guyon. Dans quel contexte avez-vous rencontré Pierre-Gilles de Gennes pour la première fois ?
Eh bien, à mon retour d'un service militaire en Algérie qui m'avait valu une sorte de lavage de cerveau à défaut d'autre chose, j'ai passé une après-midi avec ce jeune maître de conférence qui venait de finir sa thèse à Saclay et qui me proposait de faire une thèse avec lui à Orsay. Et en une demi-journée, au tableau, j'ai compris que c'était le scientifique de ma vie. J'avais été avant passé un an à Urbana, où j'avais suivi des cours sur la supraconductivité de John Bardeen, un très grand physicien, double prix Nobel de physique d'ailleurs. Et j'ai compris beaucoup plus en une demi-journée avec Pierre-Gilles que je n'ai compris en une année de cours que j'ai écouté avec John Bardeen. Il faut dire qu'il n'était pas très clair. Voilà, donc à partir de ça, eh bien, c'est une aventure que j'ai vécue avec lui de temps en temps, travaillant avec lui, travaillant séparément, nous retrouvant comme collègues directeurs d'écoles voisines, mais dans une grande amitié, une grande complicité dans le sport. Là. Et voilà, donc, mais tout ça, ça a commencé cet après-midi au tableau noir, c'était en octobre 1961.
Pierre-Gilles Lejeune avait très peu d'élèves, c'était un privilège ?
Il avait peu d'élèves, mais c'est un privilège évidemment pour moi, mais il influençait beaucoup de gens. Et puis mes élèves, les élèves de mes élèves ont continué à être marqués par cette trace de génie qui était sur chaque chose que faisait Pierre-Gilles.
Alors nous allons y revenir au cours de cette émission. Et vous, Jacques Pro, comment avez-vous rencontré Pierre-Gilles de Gennes ?
À cette époque-là, j'étais à Bordeaux et je lui ai envoyé une lettre où je lui expliquais ce que j'étais en train de faire. Et dans cette lettre, il y avait deux parties sur deux sujets complètement différents. Donc la première partie, elle m'a dit « mais je connais strictement rien à ce domaine, mais premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement ». Et au fur et à mesure que je regardais les points qu'il soulignait, je devenais de plus en plus rouge et je m'apercevais qu'il avait raison. Puis, par chance, la deuxième partie, qui était un travail sur les cristaux liquides, l'avait beaucoup intéressé et il m'avait dit « viens nous exposer ça à Orsay ». Alors donc j'y suis allé et il se trouve que j'avais assisté à un congrès avant. Et un des grands théoriciens du domaine était un mathématicien anglo-saxon, je ne préciserai pas plus, qui était un petit bonhomme rondouillard, brillant par ailleurs, mais petit et rondouillard. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginé que tous les théoriciens étaient petits et rondouillards. Et donc j'arrive à Orsay et je vois un grand beau jeune homme, brillantissime, Et c'est pareil, c'était une grande découverte. Et j'ai discuté, j'ai appris des tas de choses. Et il aurait pu me décourager, me dire que tout seul à Bordeaux, je m'en sortirais pas, etc. Au contraire, il m'a encouragé, il m'a fait inviter. J'ai eu le privilège de pouvoir lui envoyer mes travaux avant qu'une publication. Et j'avais toujours un retour dans les 2 ou 3 jours qui suivaient. Et ça a été, je pense, la chance de ma vie.
Il a été votre parrain.
Il a été mon parrain au CNRS. Oui.
Alors, on va passer sur l'enfance de Pierre-Gilles de Gennes, puisque ce qui nous intéresse ici dans cette émission, c'est d'évoquer le scientifique. Une carrière scientifique qui s'oriente, quand il est adolescent, vers 17 ans. Il s'oriente plutôt vers les sciences que la littérature, car en sciences, dit-il, on peut tout prouver par l'expérience. Alors, j'aimerais vous faire écouter un extrait du DVD La mémoire du Collège de France, donc la collection Mémoire du Collège de France, qui lui consacre un portrait, Pierre-Gilles de Gennes, dont le sous-titre est « Ce n'est pas en perfectionnant la bougie que l'on invente l'électricité ». Je crois que c'est une formule que vous connaissez, Jacques Pro.
Oui, oui, que je trouve très belle et très juste.
Alors, on va écouter un extrait de ce DVD, qui a été enregistré d'ailleurs peu avant son décès en 2007. Et puis après, je vais vous faire réagir sur cet extrait.
En science, je trouvais qu'on pouvait, et on doit d'ailleurs, avoir des idées complètement anarchiques et quelquefois aller à contresens de ce qui est le mode de pensée courant. Seulement, ça n'est pas une attitude en soi, c'est quelque chose qui après va être éprouvé par des expériences ou par des discussions théoriques. Et au bout de quelques mois ou d'un an, on va savoir si ça tient ou si ça tient pas. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, on n'y tient pas. On n'essaye pas de dire « c'est mon œuvre quand même ». Et au contraire, la bonne attitude à ce moment-là, c'est de reconnaître ses erreurs et de dire « je me suis parti dans un cul-de-sac ».
Vous avez horreur des imposteurs.
Oui, et on en voit beaucoup. D'ailleurs, en science aussi, mais justement moins en science, à cause de cette espèce de banc d'essai continuel.
Étienne Guyon, est-ce que ça résume en partie la pensée de Pierre-Gilles de Gennes ?
C'est exact que Pierre-Gilles se lançait avec passion, avec enthousiasme dans des voies nouvelles. Vous avez cité 2 domaines, on aurait pu en citer beaucoup plus, si vous voulez. Et qui, en se lançant, il disait toujours « je suis pas sûr de ce que je vous raconte, je vais tentativement, ce qui est un anglicisme, proposer ceci, proposer cela ». Et il était prêt à faire marche arrière, à dire « c'est faux ce que j'ai dit ». Et c'est vrai que c'est... Si on veut être ambitieux, audacieux, il faut en même temps accepter que de temps en temps, on part sur une voie de garage. Et il l'a fait. Alors évidemment, la mémoire, et c'est fort juste, va retenir là où il est allé jusqu'au bout. Mais je me rappelle quand il était jeune, des vacances avec, chez lui à Orcières, où il voulait à ce moment-là faire de la biologie, de la biophysique. Il était en train, il faisait des nœuds avec des ficelles. Il avait trouvé un livre anglais et il pensait qu'il arriverait avec des nœuds compliqués arriver à comprendre des choses sur les polymères. Et en fait, ça n'a pas marché. Et ce qui a marché a été des idées beaucoup plus simples. Il a fallu faire une marche arrière pour refaire une autre marche avant, qui a en particulier été un des éléments, on appelle la reptation, qui a contribué à l'attribution de son prix Nobel. Mais pour qu'il puisse faire ça, il fallait qu'il accepte que la première voie trop compliquée, ou pour une raison qu'il avait utilisée d'abord, ne collait pas. Donc reconnaître l'erreur, c'est quelque chose de très important. Et dans l'intérêt que portait Pierre-Gilles aux jeunes, il insistait toujours, quand il rencontrait des classes, à dire, à parler de ses incertitudes, de ses ignorances, de ses connaissances, de ses erreurs, alors qu'un enseignant, habituellement, ne le fait pas, cache ses ignorances. Et quand il s'est trompé, très souvent, ne va pas aller dire « je me suis trompé ».
Jacques Pro, dans le bureau de Pierre-Gilles de Gennes, ou en tout cas à proximité, il y avait une affiche avec écrit « Au revoir les théories, bonjour l'action ». C'est un peu curieux pour un théoricien, non ?
Non, mais quand même, il aimait beaucoup la théorie, il aimait beaucoup proposer des idées, mais c'est vrai que le verdict expérimental était pour lui fondamental. Et je pense qu'il n'aimait pas beaucoup des théories pour lesquelles il n'y a pas de verdict expérimental. Alors, il peut y en avoir qui sont très belles d'ailleurs, mais lui attachait un poids tout particulier à l'expérience. Ça, c'est très clair, oui.
Mais c'est quand même un personnage qui voguait à contre-courant, Étienne Guyon.
Pas vraiment à contre-courant, il marquait la voie, il gérait le courant. Je me suis souvent posé la question, est-ce que Pierre-Gilles choisit des sujets parce qu'ils sont à la mode ? Non, il faisait la mode. Il y avait une sorte de baguette magique où il démarrait un sujet, il lui mettait quelques outils et puis les gens allaient travailler des décennies sur ce sujet. Il avait donné le coup de baguette et puis des portes s'étaient ouvertes.
Alors, passons par ces portes. On va retracer le chemin qu'a parcouru Pierre-Gilles de Gennes. En 1951, il intègre l'ENS, où il a notamment comme professeur Pierre Aigrin, qu'il affectionnait beaucoup, il me semble. En tout cas, ça fait partie des noms qu'il citait régulièrement.
Qui était un savant, moi j'ai très bien connu, qui était un savant aussi non-conformiste, très imaginatif, avec beaucoup d'idées, et quelques idées justes et beaucoup d'idées fausses. Mais comme les quelques idées justes ont été très importantes, il a eu un impact sur la science considérable.
Et un impact aussi sur Pierre-Gilles de Gennes, j'imagine, Jacques Pro.
Écoutez, moi, je n'ai pas connu Pierre Aigrin. Par contre, j'en ai entendu parler et par Pierre-Gilles et par Philippe Nozière. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, chaque matin, arrivait, si j'ai bien compris, avec une idée nouvelle.
Oui, c'est ça.
Dont un pourcentage d'idées intéressantes.
Alors, il disait sur une idée nouvelle par jour et sur 1/10, c'était bonne. Ce qui faisait quand même 3 bonnes idées par mois.
Oui, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout.
Oui, mais je connais un de mes amis, un de mes collègues, ancien ministre, physicien, qui parlait des idées qui n'étaient même pas fausses. Et c'est vrai que ce n'est pas ça le problème. Des choses qui sont dénuées d'intérêt et les gens vont simplement, parce que c'est une mode, vont suivre ça. Et c'est vrai que ce qui nous a appris, Pierre-Gilles, peut-être moins toi, Jacques, puisque comme tu le disais, tu as été très autonome dans ta recherche, mais moi, j'ai appris l'autonomie dans ma recherche grâce à Pierre-Gilles et d'oser faire des choses nouvelles. Et il ne nous suivait pas toujours. À un moment, je me suis intéressé à la combustion. J'ai lancé d'ailleurs des activités sur la combustion et je n'ai jamais réussi à intéresser Pierre-Gilles au sujet. Il n'avait probablement pas trouvé le petit truc qui serait sien. Il m'écoutait poliment, mais ça ne l'intéressait pas. Or, je trouvais que c'est un sujet magnifique.
Oui, mais peut-être aussi, je pense, c'est une élégance de sa part de te laisser le champ libre d'une certaine manière. Moi, j'ai ressenti ça sur l'interface physique-biologie pendant longtemps,
oui.
Parce qu'il m'a laissé presque 10 ans avant qu'il commence vraiment à s'intéresser à cette interface. Et je pense que c'était pour... je l'ai compris, ou il me l'a fait comprendre, enfin, où je l'ai compris à plusieurs reprises. Je pense que ce n'était pas par hasard. Et pour la combustion, c'est peut-être bien la même chose. C'est ahurissant de voir le nombre de domaines où il a fait les premiers papiers ou les quelques premiers papiers.
Il est pionnier dans beaucoup de domaines.
Oui, mais il n'aimait pas du tout que l'on dise de lui que c'était un touche-à-tout. Parce que ce touche-à-tout est une connotation négative de la personne qui met son petit grain de poids. C'est pas vrai, parce que les choses qui... Bien sûr, il s'intéressait à beaucoup de choses, mais les choses où il a contribué, pour celles que je connais, il a toujours été assez loin pour au moins tendre la balle, le relais pour que d'autres gens continuent.
Oui, et puis en général, c'était profond, jamais compliqué, enfin très rarement compliqué, mais toujours extrêmement profond. Et moi, un des derniers papiers qui m'a beaucoup impressionné, c'est son papier, je crois que c'est en 2005, sur le mouvement quantique d'une dislocation. Depuis le temps que les gens travaillent sur les dislocations, et moi, quand j'ai lu, j'ai enregistré ce papier, j'ai dit, il est beau. Et puis, mais c'est pas possible que personne ait regardé le mouvement quantique, enfin, d'une dislocation dans le régime quantique. Et puis, j'ai demandé à plusieurs de mes copains spécialistes de ces domaines, etc. Ben non, personne s'était posé cette question. Et c'est Pierre-Gilles qui a fait le premier papier sur le mouvement d'une dislocation en régime quantique. Et c'est quand même fabuleux.
Ce qui m'amuse beaucoup dans cet exemple que vient de citer Jacques, c'est que ça ramenait de Gennes à la plus ancienne physique des solides qui avait été la sienne dans les années 55-60. C'est-à-dire que même s'il crée des sujets nouveaux, il n'hésitait pas à revenir sur des sujets auxquels il avait contribué et qu'il avait mis de côté parce qu'à ce moment-là, il trouvait qu'il ne pouvait pas faire de contributions nouvelles, mais il était prêt à revenir. Et ça, c'est un très bel exemple.
Oui.
Alors, vous parlez des années 50-60. Justement, arrêtons-nous là quelques instants. Il développe le concept, donc il est au CEA à cette époque-là, il développe le concept de percolation. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots à nos auditeurs?
Oui.
Étienne Guyon.
On y a contribué pas mal de gens à la suite de Pierre-Gilles. En fait, on attribue l'invention de la percolation à un mathématicien britannique qui s'appelait Hammersley, mais indépendamment de ça, Pierre-Gilles en fait la découverte. Et la découverte, la façon dont il fait, c'est qu'il regarde des petits systèmes magnétiques, il travaillait là-dessus. Ces petits systèmes magnétiques, c'est fait de petites particules qui font des amas. Et puis quand on en met plus, les amas deviennent plus gros. Il y a un moment où non seulement ils deviennent plus gros, mais il y en a un qui va s'étendre jusqu'à l'infini. C'est un seuil de percolation. Alors c'est plus facile à décrire avec ce que disait Hammersley. Hammersley disait au contraire, on prend un filtre, il y a de l'air qui passe dedans, et puis il y a un masque à gaz par exemple, et puis on bouche les canaux. Et puis, il y a un moment, on a tellement bouché de canaux que le filtre ne va plus du tout communiquer, ne va plus connecter, il ne va plus percoler. Dans les deux cas, soit parce qu'on fait grossir des petits objets qui vont envahir, soit parce qu'on coupe des liens. Dans les deux cas, il y a un seuil. Et ce qui est important dans cette notion, au niveau fondamental, c'est que c'est un concept très universel. C'est-à-dire que la notion de seuil, pour les physiciens, est une notion définie extrêmement précisément et elle se trouve s'appliquer à un système qui n'a rien à voir aux exemples classiques tels que pouvaient les considérer Curie, Van der Waals, etc., en physique habituelle. Donc, Pierre-Gilles invente ça, mais c'est presque passé sous silence, parce que la démonstration qu'en faisait ce mathématicien, tout à fait reconnu et à juste titre, était plus facile et plus spectaculaire que celle que le jeune étudiant de Saclay, Pierre-Gilles de Gênes, va faire.
Je vous propose de marquer déjà une première pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Canal Académie vous propose une rétrospective sur les sept vies de Prosper Mérimée en compagnie du biographe Pierre Pélissier. Le nom de Mérimée reste attaché aux monuments historiques dont il fut le deuxième inspecteur général nommé par Thiers. Il fut également membre de deux académies, les inscriptions et belles-lettres et la française, mais en vérité, il mena plusieurs vies. Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant cette émission dans la rubrique « En habit vert ».
Suite de notre émission en habit vert en compagnie d'Étienne Guillon et de Jacques Pro, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons avancer un petit peu dans le temps. Nous sommes donc en 1961, où Pierre-Gilles de Gênes devient maître de conf puis prof à la faculté des sciences d'Orsay de l'Université de Paris. Et en 1961, il met sur pied un groupe expérimental dont l'un des mousquetaires est avec nous dans le studio. C'est vous, Étienne Guillon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette aventure ?
Oui, mais l'aventure, elle commence dans cet après-midi au tableau noir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au-delà de ça, une grande salle vide. Et il me dit, mais tu as qu'à monter un laboratoire de supraconducteurs là-dessus. On va peut-être essayer de récupérer deux ou trois autres personnes, ce qui a été fait. Donc on s'est retrouvés à quatre. J'étais le plus ancien, mais on a travaillé à quatre, exactement comme les trois mousquetaires qui sont quatre. Et on a travaillé sur notre thèse pendant 3 ans, 4 ans, sans d'ailleurs vraiment jamais définir le sujet de chacun d'entre nous. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on faisait à l'époque. On disait qu'il faut que chacun ait un sujet bien défini. Et c'est quelque chose comme 6 mois avant notre thèse que, d'un commun accord, mais surtout avec le choix du maître, le choix qui était jamais imposé, mais qui était quand même suffisamment suggéré, et on s'est répartis tous les quatre de quoi faire la thèse. Mais dans la thèse de chacun, il y avait un petit peu de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, qu'il n'y avait pas de tiraillement, mais c'était quelque chose de constructif où chacun apportait un petit peu son style, sa fantaisie, sa rigueur. Et c'est clair que la remarque que vous y avez tout à l'heure sur De Gênes et l'expérience était assez typique, parce que en même temps que nous étions ce groupe expérimental démarrant dans une pièce vide, mais totalement vide, il n'y avait pas une prise de courant. Donc nous avons tout créé ça avec des techniques finalement assez simples. Il aimait bien vanter les expériences finalement assez subtiles qui étaient faites avec des méthodes expérimentales très simples. Mais en même temps, il mettait en avant beaucoup plus son groupe expérimental que les théoriciens qui, à ce moment-là, en même temps, travaillaient avec lui sur la théorie de la supraconductivité. Il avait une approche lui-même qui se disait expérimentateur maladroit quand il avait justement fait du travail avec Pierre Aigrin, mettait toujours en avant l'expérience. Et ça a été toujours une démarche, si vous voulez, volontaire. Et il fustigeait volontiers ces groupes de recherche en physique dans lesquels, finalement, l'expérience était insuffisante. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et je me rappelle, un an après que j'ai commencé à essayer de faire ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est une expérience assez subtile, même si ça valut des prix Nobel après, mais pas moi, je n'y arrivais pas, ça marchait pas, et c'est normal, c'est comme ça que l'expérience... Et il est venu dîner à la maison avec son épouse, qui a porté un énorme bouquet pour essayer de me consoler de ce que j'arrivais pas à faire. Ça a marché 15 jours après, voilà.
Vous étiez donc jeune, ambitieux, et puis...
Ambitieux, oui, tout à fait.
Face à d'autres équipes qui devaient vous voir d'un mauvais œil, parce que vous empiétiez un peu sur leur plate-bande.
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, quand même, c'est une bonne caractéristique des sciences. En fait, quand je disais que j'ai réussi à faire l'effet tunnel 15 jours après... Et d'ailleurs, Pierre-Gilles en a souvent parlé, c'est parce que, ayant fait un travail théorique avec De Gênes, dont le mérite était à 95% sur lui, peut-être plus encore, j'avais fait ce séminaire à Cambridge, et où il y avait un jeune physicien anglais qui s'appelait Brian Josephson, qui était un prix Nobel génial, mais un peu fou. Ouais. Et j'ai raconté la théorie, et en échange de ça, les collègues britanniques m'ont donné le truc pour arriver à faire l'effet tunnel. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a travaillé sans eau, en pleine liberté, en plein échange. Je suis allé en Russie où on a rencontré Abrikozov. D'ailleurs, il y avait Philippe Nozière aussi. Et Pas du tout. Le fait qu'on se soit trouvé dans ce cadre très ouvert, très convivial, où on parlait du groupe d'Orsay des supraconducteurs, même si tout le monde savait qu'il y avait Pierre-Gilles et puis il y avait les autres, eh bien, on a eu beaucoup de collaborations, beaucoup de grands brillants physiciens comme Mike Tinkham qui sont venus passer un an. Et ça n'empêche pas qu'il y ait peut-être derrière une concurrence, mais en tout cas, c'était avant tout une compétition pour le savoir et dans laquelle on travaille tous ensemble.
Alors, une des caractéristiques, c'est que, donc, à l'issue de ce groupe expérimental, vous publiez des articles majeurs, et ce sont des articles qui sont publiés non pas en un nom particulier, mais au nom du groupe.
Les deux. On a eu des articles, on a publié, j'ai eu des articles d'Eugène Guyon, il y a des articles avec quatre noms, il y a des articles groupe d'Orsay. Je crois pas qu'il y avait une sorte de culte, mais le fait, une fois de temps en temps, d'avoir, de se voir associé, quand on est très jeune, groupe d'Orsay, etc., des supraconducteurs ou des cristaux liquides, était quelque chose d'assez stimulant, parce qu'on savait qu'on n'y avait pas fait grand-chose, mais c'était un travail d'équipe, comme une équipe de foot, de rugby, une mêlée, on était tous ensemble associés par cette chose-là.
Alors une autre aventure, on avance un petit peu dans le temps, 1966, c'est l'aventure des cristaux liquides. Alors un groupe cristaux liquides, sept équipes d'Orsay qui sont fédérées, qui forment le groupe cristaux liquides, se forment à Orsay, et qui là aussi produisit de diverses publications, son nom d'auteur, afin d'encourager le travail collectif. Mais là, je me tourne vers vous, Jacques Pro, puisqu'il me semble que les cristaux liquides, c'est un peu votre partie.
Oh bah c'est autant celle d'Étienne Guillon, qui a aussi fait de très beaux papiers sur les cristaux liquides, et qui, de fait, connaît mieux le groupe des cristaux liquides d'Orsay, parce qu'il en faisait partie. C'est-à-dire, c'était, alors moi, j'étais vu de l'extérieur, et c'était un groupe extrêmement impressionnant. Quand on est dans un congrès, et quand on y est arrivé, les gens d'Orsay, tout le monde était impressionné. J'ai fait mon post-doc à Harvard et les gens d'Harvard, quand ils voyaient arriver ceux d'Orsay, ils reculaient et puis, bon Dieu. Et pourtant, ce n'était pas des mauvais. Hein. Mais il y avait un tel dynamisme et à chaque congrès, ils apportaient des nouvelles idées, des nouvelles expériences, des nouvelles théories. C'était le rouleau compresseur par rapport aux autres, pratiquement. Pendant quelques années, ça a été vraiment comme ça.
Mais est-ce qu'on peut ne pas faire que le déco-corico, parce que c'est en même temps quelque chose de très douloureux, et ça l'a été pour Pierre-Gilles. Parce que, alors même qu'il y avait manifestement, la France dominait la compréhension du sujet au niveau mondial, et par le groupe d'Orsay, mais par d'autres groupes, comme le groupe de Bordeaux de Jacques Pro, donc c'était quand même si c'était pas le groupe d'Orsay, c'était quand même la grande école française, eh bien, on n'a pas réussi à faire des brevets. On n'a pas réussi à développer. Justement, à Bordeaux, il y a eu le congrès mondial des cristaux liquides qui devait être en 1978. Il n'était pas à Bordeaux par hasard, ce congrès. Et je me rappelle les Japonais qui étaient là, qui nous regardaient, qui prenaient des photos de tout ce qu'on faisait. Mais 5 ans après, qui est-ce qui a eu les brevets sur l'affichage des cristaux liquides? C'est pas du tout les Français, même si nous travaillons avec des compagnies. Donc, il y a quelque chose, il y a un échec qui a été à côté du succès, Jacques.
Ça, c'est une question de culture. Et
on n'associe pas la recherche à l'économie.
Non, mais ça, alors, je ne le mettrai pas au présent. On associait mal, il y avait de la recherche, mais on l'associait mal à, disons, l'économie ou à l'innovation, etc. Ce qu'on sait faire maintenant, ce qu'on fait très bien à l'OSPCI. Et donc, il y a eu un changement culturel, et d'ailleurs, qui n'est pas étranger à l'influence de Pierre-Gilles, on sait, mais qu'il y a d'autres... J'ai commencé à réaliser que ça pouvait être vraiment intéressant quand j'ai vu mon copain Sven Lagerwal s'acheter une très belle villa à Bandol. Hein. Bon, et c'est là où j'ai réalisé que ça pouvait être intéressant, non seulement intellectuellement, mais aussi personnellement. Le SPICI avait cette culture.
Oui, tout à fait.
Depuis longtemps. Et cette culture, elle a diffusé et elle est quand même assez bien distribuée maintenant.
Alors, ce qu'il faut préciser peut-être pour nos auditeurs, c'est que ce groupe cristaux liquides, dans l'espace de 2 ans de recherche, faisait partie des leaders mondiaux dans la recherche sur les cristaux liquides.
Oui, peut-être un peu plus que 2 ans, mais manifestement...
Quelques années.
Pierre-Gilles s'approprie un sujet avec une équipe.
Ce qu'on peut préciser aussi pour les gens qui nous écoutent ici, c'est qu'il a eu l'intelligence de réaliser que les cristaux liquides, c'était aussi de la chimie. Et il a associé une équipe de chimistes. Et ce n'était pas uniquement des chimistes qui étaient là sur la paillasse. C'était des gens qui ont été associés véritablement à toutes les phases de la découverte, qui d'ailleurs publient avec nous, et pas uniquement la méthode de purification ou de synthèse du cristal liquide. Donc l'association physico-chimiste était très très forte pour Pierre-Gilles. Et il l'a conservée dans son laboratoire au Collège de France.
Oui, et qui ont fait de vraies découvertes.
Et qui ont fait des vraies découvertes.
Indépendamment des physiciens.
Oui, oui. Oui, indépendamment et en collaboration.
Et en collaboration.
La transition est toute trouvée, en tout cas. Vous avez parlé du Collège de France, venons-en. En 1971, Pierre-Gilles Dejeune est nommé professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de physique de la matière condensée. Et puis, en occupant cette chaire, il s'intéresse aux polymères. Donc, nouveau sujet. Je crois qu'il s'y est intéressé avant les cristaux liquides et il s'y réintéresse de nouveau. Ces polymères, alors, il y a un mot assez rigolo qui est la reptation, dont vous allez pouvoir nous parler, qui est un concept qu'a mis au jour Pierre-Gilles Dejeune en rapport avec ces polymères. Jacques oui, Prot, vous pouvez nous en parler? Quelles ont été les recherches de Pierre-Gilles Dejeune?
Par ces concepts de reptation, Pierre-Gilles débloque toute la description de la dynamique des polymères. On avait du mal à comprendre la viscosité des polymères. Alors, il y avait un certain nombre d'idées qui flottaient bien dans la nature, mais c'est lui qui donne cette image de plat de spaghetti. Hein, si on veut que le plat de spaghetti bouge, eh bien, il faut que le spaghetti bouge selon sa grande longueur, donc en pédant selon sa coordonnée curviligne. Et ça débloque tout.
C'était une version simplifiée du jeu de ficelle dont je parlais tout à l'heure.
Oui, et il en donne une version extrêmement facile à lire et qui donne l'essentiel de tous les comportements dynamiques des polymères.
Alors effectivement, il y a une expérience qui nous montre, notamment dans une vidéo qu'on le retrouve dans le Dejeune Days. Il y a d'ailleurs un site internet sur lequel on retrouve des vidéos où vous intervenez, Jacques Prot et Étienne Guillon. Et il y a un extrait où on voit Pierre-Gilles Dejeune attablé avec un grand saladier, beaucoup de spaghettis, pour essayer de nous montrer exactement de quoi ça parle, pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes de la question. S'il prend le plat de spaghettis, il n'y a rien qui se défait. Et s'il prend un spaghetti, ça va faire des nœuds, mais il y a quelque chose qui va en ressortir.
Il a marqué son spaghetti avec du jus de tomate pour qu'on puisse le voir se désenchevêtrer.
Exactement, c'est exactement ça. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui avaient réfléchi à ce problème avant. Il y avait un certain nombre de choses qui avaient été faites, mais personne n'avait sorti à la fois l'image et associé à l'image un calcul qui est, j'allais dire, presque transparent, enfin, pour l'homme de l'art. Et ça, c'est fabuleux. C'est pas pareil pour son autre contribution géniale sur les polymères, qui est le fait, si on prend un polymère, en fait, et qu'on regarde toutes les configurations possibles, le polymère peut pas se recouper. Donc, il y a un nombre de configurations qui sont interdites parce qu'il ne peut pas mettre au même endroit de l'espace deux brins de polymère. Forcément, il s'exclut par interaction de volume exclu. Ils ne peuvent pas se traverser. Comme deux ficelles, on fait des nœuds, mais la ficelle ne peut pas se traverser. Et ça, c'était un problème extrêmement difficile que personne n'avait réussi à résoudre. Et là, c'est par un coup de génie conceptuel qui résout le problème. Donc ça, c'est complètement différent. Et le papier, je peux vous dire, n'est pas facile à lire. Il est très court. Je l'ai lu à l'époque, je n'ai rien compris du tout. Et en fait, j'allais dire, le reste du monde a commencé à comprendre quand ils ont lu l'article de Jacques Descloiseaux, qui, deux ou trois ans plus tard, a redétaillé et a donné une version accessible. Mais Pierre-Gilles avait tout compris et tout fait.
Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de visuel, quelqu'un qui travaille beaucoup à partir du visuel?
Bon, là, c'était vraiment dire qu'un nombre de paramètres d'ordre avec un nombre de composantes strictement nul résout le problème. C'est pas visuel, c'est vraiment très conceptuel.
Ce qu'on va appeler un prolongement analytique, nous, ce qui est visuel, c'est ce qui est dans notre espace, et ça va être les spaghettis. Là, il y a un moment, il faut échapper au visuel. Et c'est important de montrer ça, parce que on pourrait avoir tendance, comme Pierre-Gilles n'aimait pas compliquer à outrance, ou qu'est-ce qu'il avait besoin, on pourrait dire il a fait de la physique facile. Mais moi, cet exemple N égale 0 des polymères, ou même dans les problèmes de supraconductivité, il y a eu des problèmes compliqués, des problèmes demandant des outils mathématiques subtils.
Il avait les deux cordes à son arc.
Et il avait ces cordes-là. Donc, il faut vraiment...
Oui, la définition du paramètre d'ordre supra de Pierre-Gilles est aussi compliquée que celle de Bogoliubov.
Oui, tout à fait. Il n'avait pas peur de ça, mais il n'en faisait pas usage s'il pouvait trouver une solution plus facile, plus accessible.
Alors, on va marquer une seconde pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour aborder l'époque où il devient directeur de l'ESPCI, une maison que vous connaissez bien, Jacques Prot, et également Étienne Guillon. Oui. À tout de suite.
Zizim, ou plutôt Djem, était le fils du sultan Mehmet II et d'une princesse serbe chrétienne. Son frère Bajazé lui ravit le trône. Oyez l'histoire d'un prince turc exilé dans la Creuse. Cet incroyable épisode historique donne prétexte à notre bibliophile Bertrand Gallimard Flavini de vous conter les amours de la fée de Sassenage. Le prince Zizim et la douce Philippine, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie d'Étienne Guillon et de Jacques Prot, dans cette dernière partie d'émission, On va s'arrêter quelque temps sur l'ESPCI qu'il a dirigé pendant 26 ans, de 1976 à 2003. Il développe à l'ESPCI l'enseignement pratique en inculquant l'esprit d'innovation à ses élèves. On en reparlera dans quelques instants. Auparavant, n'est-ce pas curieux que Pierre-Gilles de Gennes, que l'on sait affairé dans son labo à faire des expérimentations, se lance à administrer, à gérer une école?
J'étais en post-doc à Harvard quand Pierre-Gilles a accepté la direction de l'ESPCI. Et on s'est tous posé la question, mais
pourquoi?
Bon sang, pourquoi il va là-bas? L'idée dominante à Harvard, c'est qu'il voulait avoir son prix Nobel là où Pierre et Marie Curie l'avaient eu. Et en fait, la raison de Pierre-Gilles est complètement différente, je pense. Il aimait cette rencontre entre la recherche vraiment de compréhension fondamentale et l'innovation. Et c'était un endroit qui avait une tradition de rencontre entre ces deux attitudes et où cette rencontre était très positive. C'est parce qu'il était attiré par ce type d'attitude qu'il est venu à l'ESPCI.
Étienne Guillon, quel est votre avis ?
Moi, j'ai bien connu parce que m'a tiré d'Orsay, je suis venu bien volontiers, en me disant deux choses. Ben, viens avec moi, tu restes prof à Orsay, mais tu vas créer un laboratoire en physique et chimie. Surtout, tu ne fais plus de cristaux liquides. On va essayer de faire quelque chose de très différent de l'hydrodynamique. Des liquides, comprendre la turbulence, comprendre des écoulements sur des systèmes pas du tout liés aux cristaux liquides. Et je ne dis pas qu'il m'a interdit, parce que pendant quelques temps, j'ai un peu travaillé sur les cristaux liquides, mais il m'a fait venir. Et ce qui est intéressant pour rester sur Pierre-Gilles de Gennes, c'est que me faisant venir, il m'a aidé, il a contribué très très directement à la création d'un enseignement d'hydrodynamique. Il venait aux réunions, c'est le moment où il créait le tutorat, et j'étais un petit peu, pas son espion dans la place, mais j'étais un petit peu son second, parce qu'à travers ce laboratoire qu'il aimait bien, qu'il a voulu, et que j'ai dirigé, que j'ai créé et dirigé avec lui, c'était quand même les idées de Pierre-Gilles qui passaient. J'ai pas du tout de complexe par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire à la fois un certain mode d'enseignement, de mettre en avant l'expérimentation pratique qui, comme l'a dit Jacques, est une tradition de l'école de physique et chimie, aborder un sujet qui est un sujet généralement, en particulier dans cette noble académie, traité par des mécaniciens ou des mathématiciens appliqués, et pas du tout par des physiciens comme moi. Pour rester sur l'histoire de Pierre-Gilles, il venait à nos réunions, il mettait en place sur ce laboratoire le tutorat, travaillant à partir de petits exercices, pas à partir d'exercices lourds, mais impliquant une compréhension physique. Et tout ça commençant d'ailleurs par une école d'été aux Ouches, lieu qu'il avait affectionné particulièrement, où on s'est retrouvé avec Pierre-Gilles, moi-même, d'autres physiciens, comme Elisabeth Dubois-Violette, qui a été présidente du CNRS, mais comme élève. On est resté sur les bancs pendant 5 mois, et c'est à partir de ceci que vraiment s'est structurée cette recherche hydrodynamique. Elle est un peu modèle, Jacques en dira plus sur l'école physique, mais elle est modèle de la démarche de De Gennes de vouloir associer beaucoup plus directement une recherche originale et un enseignement très vivant, justement par ce tutorat, par des enseignements relativement suivis, mais pas lourd mathématiquement, et qui s'appliquait, pensait-il, à ces élèves qui sont faits pour être formés par la recherche, mais pas nécessairement formés à faire des chercheurs aussi, mais pas uniquement.
Je pense que c'est une des grandes caractéristiques de l'école à l'heure actuelle. C'est d'une part ce préceptorat qui permet de prendre du recul par rapport au cours magistral avec un ensemble d'exercices simples, mais qui demandent du recul, de vraiment perfectionner la compréhension des élèves. Et puis d'autre part, une présence très très forte dans les laboratoires. 15 heures de travaux de laboratoire par semaine, les 2 premières années, obligatoires en physique, chimie et biologie. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et Pierre-Gilles y tenait beaucoup, c'est-à-dire on y tient beaucoup.
Et aussi une ouverture, ce que les anglo-saxons appellent outreach, une ouverture vers l'extérieur par la communication, des visites de laboratoire, contributions auprès du Palais de la Découverte, et qu'il aimait, même si lui-même ne le faisait pas directement. Et c'est un petit peu...
De l'ouverture.
Vraiment, oui, cette ouverture.
Beaucoup d'ouverture. Oui. Et alors, vous, Jacques Pro, vous dirigez du coup le laboratoire de physico-chimie théorique.
Non.
Non.
Je l'ai créé. À cette époque, j'ai créé. D'ailleurs, c'est une histoire qu'Étienne rappelait à l'instant. Étienne m'avait contacté. Donc, j'étais à Bordeaux à l'époque. Il m'avait contacté pour me demander si j'avais pas envie de venir à Paris pour prendre sa succession, en fait, à la direction du laboratoire d'hydrodynamique. Et j'hésitais un peu. C'était un très beau laboratoire, mais il y avait beaucoup de monde. En fait, c'était un gros travail. Et j'ai demandé à Pierre-Gilles son avis. Et donc, il m'a téléphoné. Il me dit, mais pourquoi tu viens pas créer un laboratoire de théorie? Et dans les 30 secondes qui suivaient, je lui disais oui. Et donc, je suis venu comme ça. Et effectivement, j'ai créé le laboratoire de physico-chimie théorique. Une des choses qu'il m'avait demandé, c'était de m'intéresser aux supraconducteurs, parce que c'était l'époque des supraconducteurs à haute température. Pendant plusieurs années, j'ai suivi tous les cours de la région. J'ai dû lire 2-3 bouquins. Mais je n'avais pas d'idée que je trouve vraiment originale. Et j'avais mauvaise conscience, parce que je pensais qu'ils m'en voudraient. Et par contre, j'ai eu des trucs qui étaient amusants en physique statistique et puis après à l'interface physique-biologie. Et je me suis lancé à l'interface physique-biologie, donc en violation totale de ce qu'on avait pu discuter ensemble, mais il ne m'en a jamais voulu. Et juste une année avant de rejoindre l'Institut Curie, j'ai eu une idée sur les supras donc, que j'ai publiée. Ça lui a fait plaisir d'ailleurs, qu'il aimait bien, mais c'était complètement anecdotique comparé à ce que j'étais censé faire. Mais Pierre-Gilles ne m'a jamais reproché de ne pas avoir fait ce qu'il attendait de moi.
Et alors, en 2003, s'arrêtent les fonctions de Pierre-Gilles Jeune. C'est vous qui reprenez le flambeau. Comment s'est passé le relais?
C'est une histoire amusante, parce que peut-être un an avant sa prise de retraite, il a pris un rendez-vous avec moi d'une heure. Et c'était la première fois de ma vie que Pierre-Gilles prenait un rendez-vous avec moi. D'habitude, c'était le contraire. Et c'était jamais une heure, c'était 20 minutes. Qu'est-ce que j'ai bien fait comme grosse bêtise? J'y arrivais pas à trouver. Et il est arrivé à l'heure dite. Il a parlé pendant une heure. Il m'a expliqué pourquoi il pensait qu'il fallait que ce soit moi qui lui succède à l'OSPCI. Et au bout d'une heure pile, il est parti. Il m'a dit « Réfléchis ». J'ai réfléchi, mais je le mettais toujours de côté. Je repoussais toujours la décision. Et un jour, je l'ai recroisé dans un couloir. Et je savais qu'il était malade. Et puis il me dit « Mais t'es vraiment pas sympa. À cause de toi, je dors pas ». Et donc le lendemain matin, j'allais dans son bureau, j'ai dit « D'accord, je vais candidater ». Mais il n'a pas cherché à me donner de conseils ni quoi que ce soit. Il m'a dit « Je pense que c'est toi, point ».
Auparavant, 1991, il reçoit le prix Nobel de physique. Je crois savoir que le fait que Pierre-Gilles de Gennes reçoive le prix Nobel a été une chance pour l'ESPCI qui était relativement menacée à l'époque par des manques de crédit chroniques, on va dire. Est-ce que c'était une chance pour revaloriser l'école de chimie?
Ça a été utilisé pour aider l'école de physique et chimie à reprendre.
Il y a eu une surélévation qui a été faite après le prix Nobel. Et je pense que ça a aidé, j'allais dire, les décideurs à réaliser à quel point cette institution était intéressante. Je pense qu'il a, tout en popularisant la science, en montrant à quel point la science était intéressante, il a aussi montré à quel point il y avait des choses passionnantes qui pouvaient se passer dans cette institution.
Je suis tout à fait convaincu qu'à la fois le prix Nobel de Gênes pour une recherche qui était faite à l'extérieur de l'école physique et chimie et celui de Charpak pour une recherche qui était faite tout à fait à l'extérieur de physique et chimie ont été utilisés intelligemment par l'école physique et chimie et a permis de la faire reconnaître. Mais ça serait injuste de considérer que finalement cette école de physique et chimie a eu une valeur ajoutée, il a une valeur ajoutée parce que par l'impact pédagogique qu'a eu de Gênes, mais la qualité de cette école et de sa vitalité, moi j'y suis allé, il n'y avait pas prix Nobel de Gênes, il n'y avait pas, elle était indépendante. C'est plutôt un coup politique très publicisé qui a été utile aussi bien auprès de la ville de Paris que cela a été auprès du ministère. Mais je ne voyais ça comme un acte politique intelligent plutôt comme un truc scientifique.
Alors, le 10 octobre 1991, Pierre-Gilles de Gennes apprend qu'il va recevoir le prix Nobel de physique. On va écouter un extrait, si vous voulez bien, du journal d'Antenne 2 à l'époque. Le 10 octobre 1991, c'est Bruno Mazur qui fait l'interview. Il est le présentateur du journal télévisé du soir. On va écouter ce qu'on a déjà évoqué en fait au cours de cette émission, mais ça nous permet de poursuivre le chemin. Il nous parle de reptation, il nous parle des cristaux liquides, il nous parle des brevets. Donc on va l'entendre parler de ça et puis de la même manière, je vais vous faire réagir rapidement sur ses propos.
Vous avez obtenu de nombreux prix à l'étranger. Vous êtes comme beaucoup de scientifiques français beaucoup plus connus à l'étranger que chez nous. L'Académie suédoise a dit que vous étiez le Newton de notre temps. Alors on a expliqué un petit peu rapidement dans le sujet de Luc Bazizin que en fait vous travaillez bien sûr sur la recherche fondamentale mais que vous essayez d'avoir toujours des retombées très pratiques.
Oui, je crois que c'est très important pour nous. Je vais vous donner un exemple. Dans cette histoire des polymères, des matières plastiques ou des fibres textiles, une sensation très agréable que j'ai eue à la suite d'une idée très théorique que nous avions. Pour décrire ces mouvements de spaghettis, comme je disais, à travers les uns à travers les autres, nous avons introduit un concept qui est la reptation. L'idée, c'est que chaque spaghetti se déplace un peu comme un petit serpent. Eh bien, cette idée, je l'ai retrouvée connue dans un endroit où vraiment je ne m'attendais pas à la voir. C'était dans un village de paysans chinois, dans la campagne du Sichuan. Ils avaient monté avec leurs petits moyens une usine de filature de ce que nous appellerions du Dacron ou du Tergal. Ces paysannes qui, pendant des mois, avaient appris à voir les fils défiler à 4000 mètres minute après avoir toute leur vie repiqué du riz, étaient là. Et l'ingénieur qui les patronnait, j'ai parlé avec lui et il comprenait les idées que nous avions et l'impact que ça pouvait avoir sur le tirage des fibres. Une reconnaissance délicieuse.
Est-ce que ça ne vous agace pas que la France soit très souvent distancée en matière de brevets par nos concurrents étrangers ?
Oui, je dirais qu'il y a eu une époque où moi je me sens tout à fait fautif moi-même, l'époque des cristaux liquides justement, où l'affichage des montres est apparu. Nous avions des tas d'idées, nous les avons insuffisamment protégées. Je dirais que maintenant ça ne se présenterait plus comme ça, pour plusieurs raisons, dont une est nationale, c'est que le CNRS a mené une politique de rapprochement chercheur-industrie qui porte vraiment ses fruits. Je peux dire que dans mes divers groupes, les meilleurs chercheurs sont pratiquement tous des consultants de l'industrie en même temps qu'ils mènent une recherche fondamentale. Donc l'attitude en 91 est très différente de l'attitude au moment où le problème cristaux liquides se posait, qui était en 72, disons, quelque chose comme ça.
Alors vous voyez, en fait, en quelques minutes, 2 minutes et demie, on retrouve l'essentiel de vos propos, résumé par Pierre-Gilles Dejeune lui-même. Est-ce que Pierre-Gilles Dejeune était réellement plus connu à l'étranger qu'en France ?
C'est peut-être vrai.
Alors Étienne Guyon fait non de la tête.
Non, je pense qu'effectivement, on éprouvait moins le besoin d'en parler. Mais Pierre-Gilles Dejeune avait été président de la Société française de physique. Évidemment, ce n'est pas nécessairement un grand titre de gloire. Il était à l'Académie des sciences. Et je pense qu'effectivement, il avait un impact. Mais le prix Nobel est un piège, si vous voulez. Il faut être clair qu'il valorise des gens qui le méritent. Et en particulier, le prix Nobel donné à une personne seule a un poids évidemment considérable par rapport au prix Nobel donné à 2 ou 3 personnes, ce qui est déjà évidemment tout à fait remarquable. Mais il va mettre de côté des gens, des noms que Jacques et moi pourrions citer facilement, qui n'ayant pas eu le prix Nobel, restent manifestement des Français, puisqu'on parle de la France, sont des gens tout à fait exceptionnels, pour n'en prendre qu'un seul nom, qui a été mon maître, Jacques Fridel, qui a été président de l'Académie des sciences. Eh bien, le fait qu'il n'ait pas eu le prix Nobel, qu'il aurait très largement mérité, je crois que tous les scientifiques du monde entier le reconnaissent, font que, en France, on voit passer Jacques Fridel sans réaliser l'impact qu'il a eu sur la science dans toute la deuxième moitié du XXe siècle. Donc le prix Nobel fait révéler des gens auprès des journalistes et donc du coup des médias, alors même que leurs contributions finalement dans le monde scientifique sont très reconnues indépendamment de ça.
Oui, mais la question était vraiment, est-ce qu'il était plus connu à l'étranger qu'en France? Et quand même, c'est rarissime que quelqu'un se promène, par exemple, Pierre-Gilles pouvait se promener au MIT, faire une remarque, et puis les gens pouvaient bosser pendant 5 ans sur la remarque que Pierre-Gilles avait faite comme ça au déboîté. Il pouvait lancer une thèse rien que sur un mot de Pierre-Gilles. Et ça, c'est quand même rarissime. Et je ne sais pas s'il y aurait eu cette écoute dans nos labos en France. Il était très reconnu en France aussi, quand même.
Voilà,
très reconnu. Oui, non, c'est vrai.
Fois qu'on reçoit le prix Nobel, on fait beaucoup de conférences, on est invité un peu partout. Le choix, notamment de Pierre-Gilles Dejeune, ça a été de se rendre dans les lycées de 92 à 96. Il a visité...
Plus court que ça. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller avec lui à Stockholm. On n'était que 5 collègues. Et on avait beaucoup parlé, il avait beaucoup parlé, il était très lucide ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait pas faire. Et il a dès le début dit, pendant un an, je vais me consacrer à cela. Et il l'a fait à plein, à fond. Et ça a eu un impact auprès des jeunes. D'ailleurs, il y a actuellement un certain nombre de lycées Pierre-Gilles Dejeune, collège Pierre-Gilles Dejeune. Il est très reconnu. Mais il a en même temps décidé de ne pas se laisser déborder par ce succès populaire et ce succès auprès évidemment des lycées en se donnant des bornes. Et je crois qu'il les a très bien respecté parce qu'il voulait continuer à avoir une vie scientifique.
C'est quand même complètement exceptionnel d'aller... Alors, je ne sais pas combien de lycées ça représente.
Mais... Alors, j'avais noté 200 lycées, mais 200 je ne sais lycées. Pas si c'est le cas. Oui. Alors, venons-en à 2002, où il rejoint l'Institut Curie. Il a 70 ans, Pierre-Gilles Dejeune, et il se met à étudier des sujets proches de la matière molle, les vésicules, les pores, l'adhésion cellulaire. Non, me dit Étienne Guyon.
Bon, vas-y, Jacques, tu connais.
Non, alors les vésicules, etc., ça fait longtemps qu'il s'y était intéressé. Et quand il arrive à l'Institut Curie, il apprend la biologie. Il apprend la biologie, il s'intéresse à la neurobiologie. Il a fait une série de cours absolument superbes dans laquelle il n'y avait quasiment aucune équation sur le fonctionnement du cerveau, dans laquelle les informations des dernières publications étaient incluses. Et avec un recul absolument impressionnant, Alors, il s'amuse à faire un certain nombre de publications en interface physique-biologie, mais qui sont toutes extrêmement intéressantes. Il discute le stockage de l'information olfactive dans le cerveau, la croissance des synapses, la chimiotaxie, il fait des choses très jolies sur la chimiotaxie, etc. Mais dans le même temps, il s'intéresse à la friction solide, au mouvement de dislocation quantique, etc. Il ne fait pas que ça, mais il a aussi sur l'adhésion cellulaire, il fait des choses très intéressantes.
Ce qu'on peut dire, c'est que la matière molle que vous citiez, ça fait partie des grandes recherches qu'il a pu faire sur les cristaux liquides, les polymères, les micelles, les colloïdes. Donc il y a la réflexion, cette réflexion sur matière molle, elle date des années 80-90. Évidemment, elle va être très présente et très utile pour ce que vient de vous dire Jacques sur cette ouverture vers la biologie, mais ça n'est pas du tout la venue à Curie qui va définir ça. Mais la soft matter, comme disent les Anglais, que je trouve beaucoup plus jolie que la matière molle. Matière molle. D'ailleurs, il avait beaucoup de gêne avec cette matière molle. Des fois, il utilisait des mots, comme il aimait, il était un homme des mots élégants. Il aimait créer des mots, etc. Et il a toujours hésité. On parlait de soft matter, de matière molle, d'objets fragiles, etc., qui qualifient tous à peu près la même chose. Ça qualifie quoi? L'intérêt de Pierre Gilles pour des systèmes physico-chimiques très variés et des systèmes physico-chimiques et biologiques très variés. Donc c'est un domaine qui se définit, on ne peut pas le définir si on ne cite pas de gènes, mais c'est très antérieur au départ à Curie. Oui.
Est-ce que le fait qu'il me semble qu'une de ses filles travaille dans le domaine des neurosciences, est-ce que le fait qu'il s'oriente vers Institut Curie, ça a joué?
Moi, j'ai eu Claire comme élève à l'école normale, donc Pierre Gilles a toujours cherché à faire une référence au travail de Claire, mais c'était aussi dans le même esprit, c'est pas uniquement parce que c'était sa fille, on l'a dit, bien sûr ça jouait un rôle important, mais c'est aussi parce que il s'intéressait à la science que faisaient les jeunes. J'ai même commis un article avec lui peu de temps avant sa mort sur la façon dont un filet de miel se cassait quand on l'étirait. Mais je n'étais pas du tout du niveau de gêne, c'était un petit truc, d'ailleurs c'était même pas du niveau moi, mais il s'accrochait vers la fin de sa vie à tous les problèmes qui pouvaient le concerner, et pas uniquement de la grande physique, mais des tout petits problèmes de rien du tout.
Alors les sujets sur lesquels il aurait aimé travailler avant qu'il ne décède, c'était la turbulence.
Mais nous avons travaillé ensemble sur la turbulence. Simplement, on a travaillé, c'est mon premier travail que j'ai fait, inspiré par lui, comment pouvoir voir les tourbillons directement, c'est-à-dire la façon dont un liquide tourne sur lui-même dans un écoulement turbulent. Un des premiers travaux que j'ai fait à l'école de physique et chimie, c'est sur une idée théorique de Pierre-Gilles de Gênes, et un travail que j'ai fait avec quelqu'un qui maintenant est le directeur des études à l'école de physique et chimie.
Et puis un autre sujet sur lequel il aurait aimé travailler peut-être un peu plus, s'il a déjà travaillé dessus, ce sont les molécules qui ont une gauche et une droite.
Ça, c'est un grand problème. C'est aussi le problème du vivant, hein, le problème d'origine de la vie. Et je me rappelle l'avoir vu à un retour d'un colloque qui se passait à Versailles, où il y avait Jacques Monod, il y avait un certain nombre de très grands penseurs, de savoir pourquoi finalement toutes les molécules du vivant en France ont la même, qu'on appelle chiralité, c'est-à-dire tournent toutes dans le même sens, et les différentes hypothèses. Et il avait confié à un de mes camarades, qui était d'ailleurs un des mousquetaires, Alexis Martinet, d'essayer de trouver un système dans lequel des molécules gauche et droite, par un écoulement particulier, pourraient se séparer, de façon à ce que toutes les molécules qui tournent dans un sens vont dans un sens, toutes les molécules de l'autre vont dans l'autre, et ce qui aurait évidemment eu un impact considérable au point de vue économique, pharmacologique, etc. Mais je ne sais pas, c'est peut-être effets, plus récemment.
Ça, c'est des effets très petits. De fait, il a publié un papier très intéressant, mais c'est vieux, hein, ça date 1980 à peu près.
Oui, c'est ça.
Donc, dans lequel il discute, d'ailleurs à la suite de Pierre Curie, puisque Pierre Curie s'était posé ce genre de questions. Bon, finalement, il montre qu'on a affaire à des effets petits. Et en fait, les chimistes savent faire de la synthèse asymétrique par des moyens différents. Et je pense qu'en l'occurrence, là, la réponse du chimiste est plus intéressante que la réponse du physicien.
Alors, il va falloir conclure. Quel serait le dernier mot que vous pourriez donner pour Pierre-Gilles de Gênes?
Il y en a un que Étienne a déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est l'élégance. C'est l'élégance dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi bien en physique que dans sa personne et que dans la manière de discuter avec nous. Jamais Pierre Gilles ne m'a fait sentir que j'étais un petit à côté d'un grand. Et ça, il avait une élégance naturelle dans les rapports qui est rare.
Moi, je dirais l'amour. C'était un amoureux, un passionné. Il aimait la nature, il aimait ce qu'il voyait, il aimait ce qu'il dessinait. Il aimait la science. C'est une passion amoureuse de toute cette vie scientifique de Pierre Gilles et qui passe, comme tous les amours, par des phases dépressives, hein, ça marche pas, etc. Mais on se souvient, nous, les moments où ça a marché, et un vrai bonheur. Et là, sous 24 heures, il fallait qu'il vous communique, ça y est, j'ai compris ceci, il envoyait, il le partageait, c'était un bonheur qui était resplendissant, avec ces phases qui sont ces phases un peu négatives. Aimer la science, aimer regarder, aimer voir, toucher. Et voilà, bon.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Pro et Étienne Guillon. Il me reste à citer une série d'informations pour nos auditeurs, des références. Alors, le premier que j'ai sous les yeux, c'est le livre « La biographie de Laurence Plévert sur Pierre-Gilles de Gennes ». Gentleman physicien, gentleman aussi, ça fait peut-être partie des qualificatifs que l'on pourrait attribuer à Pierre-Gilles de Gennes. Aux éditions Belin, collection pour la science. Et je cherche la date, octobre 2009. Et puis, vous m'avez apporté deux tomes, Jacques Pro, de Pierre-Gilles de Gennes, Impact of Science, Soft Matter and Biophysics pour le volume 2, parce que j'ai pas lu les choses dans l'ordre, et Solid State and Liquid Crystals, volume 1, avec, en couverture, vous en avez parlé il y a quelques instants, Étienne Guillon, des dessins de Pierre-Gilles de Gennes. Et puis, citons également le DVD dont on a écouté un extrait, qui s'intitule Pierre-Gilles de Gennes, avec une phrase que je vous laisse lire, Jacques Pro.
Ce n'est pas en perfectionnant la bougie que l'on invente l'électricité.
Voilà,
je crois que c'est une vraie vérité.
Donc, c'est un entretien dirigé par un confrère qui s'appelle Ramdam Issad, et puis d'autres références que l'on retrouve sur le site de l'Académie des sciences. On retrouve la fiche biographique de Pierre-Gilles de Gennes, et également l'hommage fait à l'Académie des sciences. Vous m'avez donné un extrait, Jacques Pro, « La vie et l'œuvre scientifique de Pierre-Gilles de Gennes, 1932-2007 ». Et puis, bien sûr, sur le site de l'espci.fr, il y a un espace Pierre-Gilles de Gennes, on n'en a pas parlé. Il y a la Fondation, on en a rapidement parlé. Il y a également l'espace Pierre-Gilles de Gennes. Voilà tout ce qu'on peut dire. Il faudrait plusieurs émissions pour parler de ce savant, de cet gentleman physicien. En tout cas, merci de nous avoir livré vos souvenirs, de nous avoir donné vos explications scientifiques passionnées et passionnantes. Et puis, j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci.